Et notamment ce soir, édition spéciale sur RFI à 18h, temps universel. Pour l'heure, je vous laisse avec Marion Cazeneuve.
Merci Edouard Dupénoit, il est 7h43 à Paris, on passe au sport. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, le football, aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est la première manche de la finale de la Ligue des Champions africaines.
À Pretoria, les Mamelodi Sundowns accueillent le FC Pyramids, le club égyptien novice à ce stade. Poids lourd continental, l'équipe sud-africaine vise un second sacre en C1 après celui de 2016. Les Sundowns qui se sont rapprochés des étoiles ces dernières années sans aller au bout, ils ont peut-être cette fois fait le plus dur en demi en écartant un autre club du Caire, Al Ahly, double tenant du titre et 12 fois vainqueur. Alors cette fois, à Pretoria, les supporters y croient plus que jamais. Valentin Hugues.
Les Sundowns ont franchi chaque étape de la compétition avec succès, même face à la redoutable équipe de Al Ahly. À présent, selon Philippe, ils sont inarrêtables.
Je suis tellement fier du parcours des Mamelodi. Je prédis une victoire facile. C'est une équipe très consistante. Ils vont gagner, c'est sûr, à 100%.
Son collègue est un peu plus prudent. Pour lui, 80% de chances de gagner. On continue notre tournée des magasins de sport de Pretoria.
Ils ont un nouveau coach. Encore quelques ajustements à faire, mais j'ai pleinement confiance en eux.
Dans son magasin, Doris vend le maillot jaune des Sundowns.
C'est notre maillot domicile et je vais évidemment le porter pour mettre mon équipe en avant et dire aux clients, aujourd'hui, on est des gagnants.
Un maillot qui pourrait bientôt subir une petite modification, c'est en tout cas ce qu'espère Sifa.
Revenez nous voir la saison prochaine. Dans notre vitrine, on aura le maillot des Sundowns avec 2 étoiles. Faites-moi confiance, ce n'est pas juste une promesse en l'air.
Sur le terrain, ça risque d'être un peu plus difficile que dans les mots de ce supporter, avec une finale qui s'annonce particulièrement intense. Valentin Hugues, de retour de Pretoria, RFI.
Mamelodi Sundowns, Pyramids, coup d'envoi 13h, temps universel pour ce match aller de la finale de la Ligue des Champions.
Aujourd'hui, Victor, il y a aussi de l'athlétisme avec le retour, après plusieurs années d'absence, du meeting de Dakar.
Une 12e édition dans un stade Léopold Sédar-Senghor, entièrement rénové. 160 participants, dont les meilleurs athlètes sénégalais pour l'occasion. Parmi les têtes d'affiche, le champion d'Afrique du 400 mètres, cher Tidiane Diouf, et celui du 110 mètres L, Louis-François Mendy. Et ils ne sont pas les seuls, attendus par le directeur technique national, Pape Sérigne Diène.
Au niveau des sauts, nous avons 4 bons sauteurs. En l'occurrence, Ahmad Faye, qui est le deuxième Africain. Nous aurons au triple des athlètes qui ont sauté plus de 16,50 m, 16,70 m. Au niveau du saut en longueur, nous avons des gens qui ont dépassé les 8. Notre champion aussi d'Afrique, Salissa, sera au niveau du triple saut et du saut en longueur, mais va retrouver des athlètes d'envergure internationale. Le niveau du 400 mètres, nous allons mettre en exergue notre relais de 4 fois 400 mètres, actuellement 17e mondial, qui vont rivaliser avec leurs homologues de la France et du Cameroun.
Propos recueillis par Wahani Johnson Sambou.
On termine par le basket aux États-Unis avec la suite des finales de conférence de la NBA.
Et dans la conférence Est, les Indiana Pacers ont fait la moitié du chemin contre les Knicks de New York. 2-0 grâce à leur victoire cette nuit au Madison Square Garden, 114 à 109. Énorme performance du Camerounais Pascal Siakam, meilleur marqueur du match. 39 points, rien que ça pour le natif de Douala, c'est son record en carrière en phase finale. Encore 2 victoires et les Pacers iront en finale de la NBA. Rendez-vous demain soir à Indiana pour le match 3, Marion.
Et vous revenez dans une demi-heure, Victor Missistrano, pour un nouveau journal des sports.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazeneuve.
7h47 à Paris, à la une ce samedi 24 avril. Gaza vit peut-être la période la plus cruelle du conflit. Les mots du chef de l'ONU hier face aux bombardements israéliens quotidiens. L'aide humanitaire qui arrive au compte-gouttes. Et la famine qui menace la population. Plus de 2 millions de personnes sont en danger de mort imminente selon l'OMS. Donald Trump prêt à écourter la trêve de sa guerre commerciale. Le président américain menace d'imposer 50% de droits de douane contre l'Union européenne. Les négociations n'avancent pas, dit-il, et ces taxes pourraient être imposées dès la semaine prochaine, le 1er juin. En RDC, Joseph Kabila réagit après la levée de son immunité. L'ancien président dénonce des décisions arbitraires et annonce qu'il se rendra à Goma dans les prochains jours. Goma, ville du Nord Kivu, contrôlée par l'AFC M23. Le monde de la photo rend hommage à Sebastião Salgado, photojournaliste franco-brésilien, mort hier à 81 ans. connu pour ses clichés en noir et blanc où il immortalisait des conflits ou encore les peuples d'Amazonie. Et puis clap de fin du Festival de Cannes ce soir, le palmarès sera dévoilé tout à l'heure. On suivra tout cela dans une édition spéciale sur RFI en direct de la Croisette à 18h, temps universel. La revue de presse internationale avec Catherine Potet. Bonjour Catherine.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
À la une, les nouvelles menaces de Donald Trump contre l'Europe.
Donald Trump affirme ne plus chercher d'accord avec l'Union européenne et menace d'appliquer des droits de douane de 50% sur les produits européens à partir du 1er juin, titre le journal Le Temps. L'annonce a très vite fait dégringoler les bourses européennes et plomber l'ouverture de Wall Street, ajoute le quotidien suisse. Droits de douane, Donald Trump exige la capitulation en race campagne de l'Union européenne, cela s'appelle un ultimatum, lance de son côté Le Soir. Le journal belge précise que pour l'Union européenne, le réveil est brutal. Les négociations visiblement n'avancent pas assez vite au goût du président. Plus exactement, l'Union résiste encore à une bonne partie des exigences américaines. Pourquoi Trump s'en prend à l'Europe, interroge de son côté le Wall Street Journal, qui parle d'une frustration croissante au sein de l'équipe de Trump. Ses conseillers, nous dit-on, ont exprimé leur irritation face au ralentissement des négociations liées aux divergences de priorités commerciales entre les pays membres de l'UE. Mais on s'agace aussi côté européen. Selon le Washington Post, des responsables européens ont estimé ces dernières semaines que l'équipe de Donald Trump exigeait des concessions unilatérales sans offrir grand-chose en retour.
Dans la presse internationale, également ce nouvel échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine.
Le quotidien espagnol El País publie un reportage sur la libération de prisonniers ukrainiens que l'on voit les épaules recouvertes du drapeau bleu et jaune de l'Ukraine. Pour les familles, le moment est chargé d'émotions. Certaines viennent chercher un prisonnier libéré, d'autres sont à la recherche de proches disparus. Certains, nous dit El País, ont prié pour que l'un des prisonniers libérés leur apporte une bonne nouvelle. D'autres ont pleuré d'émotion en revoyant leurs proches. Le ministère de la Défense ukrainien exige toutefois des familles de ne pas demander aux prisonniers libérés quelle était sa fonction dans l'armée et quelle souffrance il a endurée avant d'avoir été vu par un psychologue. Le russe ne doit pas non plus être utilisé lors des entretiens car il peut avoir des effets négatifs sur l'état mental de ces hommes. L'un d'eux est au téléphone avec sa famille et ne peut retenir ses larmes, raconte El País. Comme les autres, il a les cheveux rasés, le visage émacié après un an et demi de captivité. Il porte un pantalon usé, retenu par une corde qui fait office de ceinture.
Enfin Catherine, les journaux parlent de la mort d'un artiste mondialement connu, le photographe brésilien Sebastião Salgado. Il s'est éteint hier à l'âge de 81 ans.
Sa photo est en une du quotidien brésilien El Globo qui rend hommage à celui qui a documenté les injustices sociales à travers le monde avec des images alliant réflexion, émotion, lyrisme et toujours avec la maîtrise de la lumière naturelle et le contraste saisissant du noir et blanc. Mais Sebastião était bien plus que l'un des plus grands photographes de notre temps, a estimé l'Institut Terra, une ONG dédiée aux écosystèmes fondée par le photographe lui-même avec son épouse. Ils ont semé l'espoir là où la dévastation régnait et fait germer l'idée que la sauvegarde de l'environnement était aussi un profond geste d'amour pour l'humanité, poursuit l'Institut Terra, qui, rappelle El Globo, a planté plus de 2 millions d'arbres dans la forêt côté Atlantique et rétabli environ 2500 sources. Quant à sa mort, Sebastião Salgado l'abordait avec humilité. Je n'ai aucune inquiétude ni prétention sur la façon dont on se souviendra de moi. C'est ma vie qui est dans les photos et rien d'autre, disait-il dans une interview réalisée en avril 2024.
La revue de presse internationale signée Catherine Potet. La semaine de Jean-Baptiste Placa. Votre regard, Jean-Baptiste, sur l'actualité africaine. Aujourd'hui, on parle de l'élection à venir du président de la Banque africaine de développement. Ce sera au cours de ses assemblées la semaine prochaine à Abidjan. Le thème retenu, c'est tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Jean-Baptiste, en quoi ces assemblées sont-elles importantes pour la banque et pour le continent ?
Dans le contexte international actuel, ces assemblées auraient dû revêtir une importance majeure qui ne transparaît hélas pas dans le thème retenu. Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement semble d'une banalité ennuyeuse pour une institution créée il y a plus de 60 ans. l'Afrique n'en finit pas d'être humiliée et ce thème sonne comme un aveu d'impuissance au moment où les peuples ont réellement besoin de voir leurs espérances portées par un leadership de qualité. Si l'Afrique était une seule nation, la Banque africaine de développement en aurait été le ministère du développement. Et dans un pays sous-développé ou en voie de développement, quel département est plus important que le ministère du développement ? La vision du président de cette institution a donc forcément une incidence sur la manière dont les autres traitent l'Afrique. Souvenez-vous du guet-apens dont a failli être victime cette semaine Cyril Ramaphosa dans le bureau ovale. Le chef de l'État sud-africain, une des trois premières, sinon la première économie du continent, ne pouvait être traité comme l'a fait son homologue américain.
Sauf que Donald Trump traite la plupart comme il a traité l'Ukrainien Volodymyr Zelensky en février dernier.
Non, pas exactement. Nous avons vu le même Donald Trump, doux, presque obséquieux face aux dirigeants du Golfe. Il s'est donc montré du respect à ceux qui lui en imposent, au moins par leur richesse, leur fortune, sinon par leur largesse. L'Afrique du Sud est un pays aux potentialités immenses, comme une dizaine d'autres États du continent qui, s'ils étaient mieux gérés, feraient aussi bonne figure que certains de ceux que le locataire de la Maison-Blanche révère, bon gré mal gré, dans le Golfe. Dans le nouvel ordre mondial qu'il nous conçoit, seule la puissance économique protège, car pour ce qui est de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des grandes valeurs que prônent habituellement les États-Unis, les amis devant lesquels Trump se fait tout doux dans le Golfe, n'ont rien de plus que ceux qu'il méprise en Afrique. Pour se hisser à la hauteur de ses critères de respectabilité, l'Afrique a plus que jamais besoin de mieux se gouverner, d'où la nécessité d'un leadership visionnaire dans une institution comme la Banque africaine de développement, qui devrait être non seulement la banque, mais aussi un prestigieux bureau d'études à la disposition des États du continent. Croire qu'il leur suffit d'apporter, en offrant à la Maison-Blanche les richesses de leur sous-sol, pour que Donald Trump leur montre du respect, est une douce illusion.
Jean-Baptiste, qu'attend alors la Banque africaine de développement pour se trouver d'excellents dirigeants ?
Des profils pointus capables de gérer valablement une institution comme la Banque africaine de développement, l'Afrique en regorge à profusion, autant sur le continent que dans la diaspora. Mais dans un monde qui ne fonctionne plus que par intérêt, l'Afrique ne s'imposera pas juste avec des gestionnaires, aussi excellents soient-ils. Ce dont elle a cruellement besoin, ce sont des leaders visionnaires capables d'anticiper et de relever les défis, de penser l'avenir pour valoriser au mieux les atouts d'un continent par ailleurs généreusement doté par la nature. Depuis sa création en 1964, la Banque africaine de développement a eu des présidents bien formés, bardés de diplômes souvent décrochés dans les plus prestigieuses institutions de la planète. Le Soudanais Mamoun Beheri, premier président de l'institution, était diplômé d'Oxford et tous ses successeurs avaient de remarquables références à faire valoir. Mais seulement deux ou trois ont pu propulser la banque à des niveaux significativement plus élevés que celui auquel ils l'ont trouvé. Peut-être que les actionnaires devraient, à l'avenir, demander aux postulants un véritable programme de gouvernement avec un chronogramme afin de s'assurer qu'ils ne vendent pas au peuple des rideaux de fumée comme en politique. C'est aussi cela, penser l'Afrique.
La semaine de Jean-Baptiste Placa. On écoutera l'un des cinq candidats à la Banque africaine de développement qui est une candidate, la sud-africaine Bajabulile Swazi Tshabalala est notre invitée Afrique ce matin. Entretien à écouter dans 45 minutes environ. Dans quelques minutes sur RFI, c'est le retour de l'actualité internationale. En attendant, on fait un tour dans la playlist musicale. On écoute Toupen Sabas, un titre d'Isaac Delgado avec Alain Pérez.
Isaac Delgado, Alain Pérez. Tú pensabas que estaba retirado. Allá tú
mientras yo descansaba, tú buscabas consuelo.
Yo durmiendo lo presentía, que ya no hay garantía, la amistad no es un juego.
Salúdate, date un besazo, que yo no espero el chisme, que eso es atraso. Amigos que son de papel, piensan que van ganando lo que le di fue cordel. Salúdate, date un besazo, que yo no estoy pa' chisme, que eso es atraso. Amigos que son de papel, piensan que van ganando lo que le di fue cordel.
Oye, y lo pescaron. Son muchos años, Isaac, y el sello.
Tú pensabas que estaba retirado. Allá tú estás fallado.
Ahora vengo con todo. Yo no vengo solo. Si tú piensas que estás ganando y lo que te di fue cordel.
Sabas, un titre d'Isaac Delgado avec Alain Pérez que vous retrouvez dans la playlist musicale du mois de RFI. Bientôt 8h à Paris, restez avec nous dans une poignée de secondes, c'est le retour de l'actualité internationale.